Super. Oui, je savais que j'avais oublié une annonce. Pouvez donner votre offrande. On vous rappelle que dans le mail qu'on vous a envoyé, il y a un relevé d'identité bancaire. Donc, soit vous pouvez faire un virement, soit vous pouvez faire un chèque. Mais bon, voilà. Pourquoi donner de notre argent, de mon argent, à Dieu? C'est la thématique que je voulais aborder avec vous ce matin. Et pour ça, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles si vous les avez. Et on va lire dans la première lettre aux Corinthiens de Paul. Et on va lire le chapitre 9, les versets 1 à 14. Donc 1 Corinthiens 9, versets 1 à 14. Tu peux afficher la slide suivante, il y a le texte pour ceux qui n'auraient pas leur Bible. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle, que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Voilà, et on va s'arrêter là. Super, merci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Paul y commence par nous parler de la liberté. En tant que chrétien, vous êtes libre. Si vous êtes chrétien, si vous connaissez Jésus-Christ, si vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, vous avez accès à une relation libre avec Dieu au travers de Jésus. C'est ce qu'on a chanté ce matin, c'est ce qu'on a prié ce matin. Vous avez un accès libre. Vous ne devez plus venir vers Dieu au travers de règles. Ça, c'est la religion, mais dans la liberté, sans condamnation, sans contrainte, sans avoir à faire telle ou telle chose. Et Paul, il veut qu'on comprenne cela. Il veut qu'on comprenne ce que cela veut vraiment dire. Dieu a choisi de nous libérer gratuitement. L'évangile de la bonne nouvelle est gratuit. Le pardon des péchés est gratuit. Tout cela est un don gratuit. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire nous-mêmes pour gagner cela. C'est un cadeau. C'est un don. Si je vous offre un cadeau pour votre anniversaire, je ne m'attends pas à ce que vous sortiez un chéquier pour me le régler. S'il y en a un qui vient vers moi et qui m'offre un super MacBook Pro, il serait choqué que je sorte mon chéquier en disant « Oh non, t'as fait des folies là, je vais te le rembourser. » Au passage, vous noterez que j'ai glissé. Chaque dimanche, nous sommes invités à donner notre argent au travers d'une offrande. Et peut-être, je pourrais être tenté de penser qu'en donnant un peu plus, Dieu va être généreux avec moi cette semaine. Si je fais ma part, Dieu fera la sienne. Est-ce que vous avez déjà pensé ça? C'est un peu la superstition en quelque sorte, hein? Un petit peu la superstition. On pense que Dieu nous doit quelque chose. Si nous pensons cela, cela démontre que nous n'avons aucune idée de combien, au contraire, nous lui sommes redevables. Aucune idée de la dette incroyable que Dieu a payée pour nous. C'est comme si on était un petit garçon. On lui a donné un billet de 5 euros et il va dans un magasin et il s'imagine qu'avec ce billet de 5 euros, il peut acheter tout ce qu'il voit devant lui. Parfois, c'est ce qu'on peut ressentir. Nous méritions la mort, Dieu a donné la vie de son Fils pour nous sauver. Si vous voulez aller plus loin dans la vie chrétienne, porter plus de fruits en faisant des pas de foi plus grands, des sacrifices plus grands, en donnant plus, la première chose que vous devez faire avant quoi que ce soit d'autre est de comprendre le contrat de base. C'est la base. Le contrat de base repose uniquement sur ce que Jésus a fait. Nous ne sommes pas acceptés à Dieu, par Dieu à cause de ou grâce à nos actes, ce qu'on fait, car même si on fait le maximum en faisant vraiment, vraiment de notre mieux, toute notre vie, on ne fera jamais assez. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu est teinté en partie par notre égoïsme, par notre amour propre. Jésus seul a vécu une vie parfaite. Et il est mort d'une mort parfaite à notre place. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre, et il est mort de la mort que nous méritions. Cela veut dire que le pardon que Dieu donne vient uniquement de sa miséricorde envers nous. Et c'est capital de comprendre cela. C'est vraiment capital de comprendre ça. C'est la base. C'est le contrat de base. Dieu vous aime. Et ce contrat, il repose uniquement sur ce que Dieu a fait. Point final. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Rien d'autre. Dans la religion, les gens donnent en espérant que Dieu sera gentil en retour à leur égard, qu'il sera généreux. C'est Jésus qui a déjà tout donné. C'est ça le point important. Et si on comprend cela, si ça descend dans votre cœur, cela va changer entièrement votre vie et votre regard sur les choses, y compris sur la gestion de votre argent. Tu ne donneras pas à Dieu ton argent pour essayer de l'impressionner, comme s'il pouvait être impressionné par cela. Ou comme si Dieu te disait « Merci beaucoup, j'étais un peu juste ce mois-ci et franchement ce que tu me donnes, ça va m'aider. » Non, ça ne sera plus jamais comme ça. Dieu possède toutes choses, c'est lui qui a tout créé. Il n'a pas besoin que nous donnions quoi que ce soit. Si nous donnons, c'est une grâce. C'est une réponse à sa grâce manifestée premièrement par Jésus-Christ pour nous. Si tu ne connais pas encore Jésus ce matin, ce n'est pas le jour où je te dis « donne ton argent », c'est le jour où je te dis « viens à Jésus ». C'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de son pardon. Tu as besoin de son amour. Tu as besoin de connaître la personne la plus merveilleuse, la plus généreuse, la plus miséricordieuse qui soit, avant d'être à ton tour généreux et miséricordieux. Tu dois d'abord te laisser toucher par la grâce de Jésus avant de pouvoir lui répondre au travers du don. C'est quelque chose d'important. Alors, quelques raisons pratiques qui expliquent pourquoi c'est bon et important de donner à l'Église. Premièrement, du bon sens. Celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Paul dit que l'Évangile nous a rendus libres. Donc nous pouvons faire ce que nous voulons en quelque sorte. Si tu as accepté Jésus-Christ et que tu as été libéré de la loi, des règles, de la religion, que tu es libre d'avoir une relation avec lui, cette relation impliquera forcément que tu voudras aimer les gens autour de toi. Que tu voudras prendre soin d'eux. Que tu voudras mettre les autres en premier, comme nous l'ont très bien témoigné ce matin Eric et Marie-Laure. Cette relation avec Dieu va forcément impliquer cela. Paul ici doit se défendre. Dans ce texte, on voit qu'il se défend parce qu'il est pris à partie par certaines personnes. Il semble avoir été critiqué pour son désir d'indépendance financière. Il refuse que les Corinthiens lui donnent de l'argent. Et à cette époque, il faut comprendre que les philosophes et les enseignants itinérants étaient payés pour leur enseignement ou soutenus par de riches mécènes. Et Paul a toujours refusé d'être soutenu financièrement par les personnes, c'est important de le comprendre, auxquelles il était en train d'annoncer l'Évangile. Il nous le dit au verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plus nous à nous d'en jouir, mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Paul, en faisant cela, se libère de toute obligation envers des hommes influents. Il ne veut pas que des questions d'argent soient un obstacle à l'annonce de l'Évangile. Paul, il avait toute liberté d'accepter ses dons avec reconnaissance, mais cette liberté devait être mise au service de la seule gloire de Dieu et du bien des autres. Également, l'église de Corinthe n'existait pas avant que Paul arrive. Il y avait un couple, il y avait Aquilas et Priscilla. Et donc, très logiquement, pour démarrer quelque chose, il fallait qu'il subvienne lui-même à ses besoins. Et il a commencé par travailler avec eux. Il ne pouvait pas dire aux personnes qui ne connaissaient pas Jésus, donnez-moi un peu d'argent et je vous parlerai de Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Et il n'aurait pas démarré une grande église s'il avait procédé comme ça au départ. Pourtant, Paul explique pourquoi il n'a pas demandé d'argent, mais il écrit aussi pourquoi il avait tous les droits de demander de l'argent. On le lit au verset 7. Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Ou qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est du bon sens que l'homme profite du fruit de son travail. Essayons d'imaginer cet homme volontaire pour être soldat, afin de défendre sa patrie. Il veut défendre sa patrie, c'est dans son cœur. Et puis il arrive au bureau du recrutement et il commence à déclarer, bon alors, combien je dois vous payer pour vous servir dans l'armée? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'argent est souvent considéré comme quelque chose de mauvais et dont il faut se détourner. Dans certaines églises, on considère que parce qu'être responsable, leader, pasteur, ancien, conducteur de louanges, responsable de jeunesse, c'est quelque chose de spirituel. Il ne faut pas les payer car on ne veut pas que ces personnes soient corrompues par l'argent. L'argent est quelque chose de mauvais. L'argent est la racine de tous les maux. On connaît bien cette phrase. Et la réponse évidente, c'est que la Bible ne dit pas cela. Qu'est-ce que dit la Bible? Merci Aline. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. L'argent est bon quand il est utilisé pour la gloire de Dieu. Comme tout ce que Dieu a créé, cela peut être utilisé pour la gloire de Dieu. En soi-même, ce n'est pas mauvais. Mais il peut être mal utilisé. Et quand c'est mal utilisé, là, c'est mauvais. À chaque fois que nous voyons notre portefeuille, notre compte en banque comme la chose la plus importante dans notre vie, qui doit être protégée à n'importe quel prix, nous élevons cela à une place haute de divinité en quelque sorte. Et c'est en faisant cela que nous rendons la chose mauvaise. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent en soi-même, quand il est utilisé avec humilité, quand il est utilisé pour la gloire de Dieu, quand il est utilisé avec générosité, en obéissance à la parole, c'est une très bonne chose. Il est écrit dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 10, au verset 19, que l'argent répond à tout. Et c'est vrai. C'est vrai, quand il est utilisé de la bonne manière, en obéissance à la volonté de Dieu. L'argent est un don dont nous avons besoin. Il nous permet de faire des choses. Nous ne pouvons pas seulement être super spirituels, c'est juste du bon sens. Et la Bible est beaucoup plus terre à terre que nous au sujet de l'argent. Dieu l'a mis en place pour que les gens puissent être portés financièrement, les gens qui travaillent, les gens qui servent. C'est du bon sens. Et ce n'est pas seulement du bon sens. On va relire le verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit, celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Ce serait de la stupidité de museler un bœuf. Le bœuf, avant, quand il labourait, il pouvait manger. Et si on l'empêchait de faire ça en le muselant, en le mettant de muselière, il s'arrêtait de travailler. Et à ce moment-là, vous n'aviez plus de récolte. De la même manière, c'est pour cette raison que l'Église doit subvenir aux besoins des personnes qui servent à plein temps dans l'Église. Je l'ai lu au verset 10. Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. C'est juste que des personnes soient rémunérées, y compris, Paul nous dit lui-même. Et à plusieurs reprises, il le dit. Et bien que Paul ait refusé les dons des Corinthiens, nous lisons aussi que Paul, il a accepté des dons d'autres églises, déjà créées. On peut le lire dans 2 Corinthiens, verset 11, chapitre 11, verset 9. Et notamment, et dans Philippiens 4, versets 10 à 20. C'est juste que les personnes qui servent dans l'Église à plein temps soient rémunérées. Alors, ce n'est pas le cas, bien entendu, aujourd'hui, dans notre assemblée. Personne parmi nous ne travaille à plein temps dans l'Église. Tous les responsables ont un travail à côté de leurs engagements respectifs. Nous travaillons à mieux nous organiser. Vous avez vu que la charge et la responsabilité des activités dans l'Église reposent sur plusieurs anciens et responsables. Il y a l'équipe diaconale, il y a tous les responsables dans l'Église et oh combien il y en a. Et c'est super, car nous sommes une église avec beaucoup qui s'investissent, qui donnent de leur temps, Ils sacrifient de leur temps. Et ça, c'est vraiment une richesse. Et j'aimerais vraiment insister sur ça. On est une église généreuse. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'investissent et qui s'engagent et qui font des choses. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est bon. C'est génial. Mais nous devons savoir et accepter que ce modèle a une limite qui va avec la croissance. Et que ce modèle-là, il ne pourra pas tenir. Ou alors la croissance et la multiplication s'arrêteront. On y reviendra un peu plus tard. Du bon sens. Être responsable aussi, j'aimerais dire, c'est un travail difficile. C'est intéressant de voir l'image que Dieu prend du bœuf. Il compare le fait d'être responsable à un bœuf. Et les responsables qui servent comprennent ce que cela veut dire. C'est un travail difficile. La Bible en parle. C'est quelque chose qui demandera de la consécration, qui demande du temps, qui demande de l'énergie, qui demande des sacrifices, et c'est le cas. Et quand c'est fait convenablement, cela peut parfois amener à un état d'épuisement. Et bien sûr, ce n'est pas ce qu'on recherche, ce n'est pas ce que nous voulons. C'est un travail difficile. Parfois, il y a des personnes qui me disent, mais j'aimerais faire plus, mais j'y arrive pas. J'aimerais faire plus, mais j'y arrive pas. Mais il n'y a pas de secret, nos journées font 24 heures, elles ne font pas 48 heures. Et si vous voulez faire plus, eh bien, il faut forcément que vous renonciez à quelque chose. Il faut forcément que vous sacrifiez quelque chose du temps de votre vie pour ce que vous voulez faire pour Dieu, pour ce que vous voulez faire pour l'Église. Il n'y a pas de secret. Vous pourriez être tenté de penser qu'être responsable ancien se résume à prendre des nouvelles des uns des autres, imposer les mains par-ci par-là, faire un enseignement de temps en temps. Mais en fait, c'est plus que cela, ça prend toute votre vie. Vous êtes sans arrêt en train de penser à l'Église, même quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec vos enfants, même quand vous partez en vacances. Et le verset 10 nous dit, celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Ceux qui labourent doivent le faire avec espérance. Il y a une espérance, il y a une récompense, il y a une provision qui doit venir pour supporter les besoins matériels, les besoins naturels. Alors comme je l'ai déjà dit, à l'ACM, chacun des responsables a un travail en parallèle de l'Église et sert bénévolement. Et c'est bon aussi. Mais pour être honnête, parfois, c'est la réflexion que je me suis faite, nous nous rendons compte que nous manquons de temps, que les choses qui devraient être faites ne le sont pas, que des personnes qui devraient être visitées ne le sont pas, qu'il faut parfois des mois, voire des années pour avancer sur certains sujets. Et je pense que nous devons réfléchir où sont les besoins et comment libérer du temps à des personnes, à des ministères dans l'Église pour grandir. Ça peut être au niveau de l'enfance. Il y a tellement de choses à faire. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, au niveau de la louange. J'aurais à cœur qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau de la louange, qu'il y ait des personnes qui aient du temps pour composer des chants, pour écrire, pour faire des formations. Ça pourrait être dans l'administration. Là aussi, il y a énormément de choses à faire. Ça pourrait être pour l'enseignement. Souvenez-vous du temps où Nicolas était parmi nous. Il était à mi-temps. Est-ce que l'Église n'était pas au bénéfice de cela? Je pense qu'il nous faut avancer dans ce domaine avec sagesse, avec discernement, bien sûr, mais aussi avec foi et avec vision. Et ça accompagnera la croissance, ça accompagnera la multiplication. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer qu'on va rémunérer quelqu'un aujourd'hui, mais c'est juste pour nous encourager et essayer d'élargir notre vision et de voir plus loin. Et d'y réfléchir tout simplement, est-ce que c'est juste ce que je partage, est-ce que c'est juste ce que Paul nous dit, est-ce que c'est du bon sens? Et de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment cette croissance, est-ce qu'on veut vraiment cette multiplication, ou est-ce qu'on est bien, on veut rester ensemble? Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que Dieu nous a parlé, et ça fait des années qu'il nous parle. Et on commence à voir des choses. On commence à voir des choses, mais ça demande de l'énergie, ça demande du temps, beaucoup plus de temps. Là, je vais peut-être vous choquer, mais la présence de Dieu coûte de l'argent. Ça, c'est choquant. Peut-être vous pensez que ce n'est pas le cas, et peut-être vous pensez que c'est gratuit, que tout est gratuit. C'est vrai. Vous avez raison, c'est gratuit. On l'a dit au début. Hein. C'est gratuit. Mais en fait, pour continuer de construire des églises qui amènent la présence de Dieu dans la vie des gens, dans les villes, dans les nations, cela coûte de l'argent. Et c'est le point que Paul développe au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? Pensez-vous que ceux qui servaient dans le temple, qui travaillaient dur, avaient juste besoin du fruit de leur travail dans la vie des gens. Non, ils avaient aussi besoin qu'on prenne soin d'eux pour être en mesure de prendre soin des gens du temple. Nous sommes libres d'entrer dans la présence de Dieu, dans le sens où c'est au travers du sang de Jésus. Et ça, c'est capital de le recevoir et de le saisir. Mais communiquer la bénédiction de Dieu dans le monde se fait au travers de l'Église. Paul utilise le mot temple, et qu'est-ce que nous apprend le livre des Corinthiens au sujet du temple aujourd'hui? Qu'est-ce que le temple aujourd'hui? Qu'est-ce que le temple aujourd'hui? C'est nous, c'est l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Église est la maison de Dieu. L'Église est l'habitation du Saint-Esprit. Alors je ne parle pas de ces quatre murs seulement, cela inclut le prix de ces quatre murs, mais c'est beaucoup plus que cela. Ce sont les activités que nous menons, ce sont les projets que nous avons, ce sont les gens, c'est la mission. Et c'est une mission glorieuse. Et ce n'est pas gratuit. Si on dépense 100 euros pour acheter une webcam pour pouvoir retransmettre les cultes en ligne, il faut que 100 euros rentrent. C'est aussi simple que cela. Si nous décidons de donner 1000 euros pour aider dans la mission, nous avons besoin que 1000 euros rentrent. C'est la même chose dans l'Église que n'importe où ailleurs. C'est pareil. Et je suis reconnaissant car c'est quelque chose que nous avons compris dans l'Église. Car nous sommes une Église généreuse. Vraiment. Il y a eu cette période de confinement où c'était dur pour tout le monde. Et nous avons continué à donner. Nous avons continué de faire confiance à Dieu. Et j'aimerais vous donner quelques exemples de comment l'Église bénit au-delà de ses quatre murs avec l'argent qu'elle a reçu. Comment elle va bénir au-delà de ses quatre murs avec l'argent qu'elle a reçu. Il y a des dons qui sont faits. On en parle. Mais j'aimerais en reparler ce matin. On a fait un don pour Alpha, ce super ministère, vraiment excellent, qui touche des milliers de personnes, même sans doute davantage, de personnes qui ont rencontré Dieu au travers de ce ministère. Et on peut bénir ce ministère en donnant, en faisant une offrande. On a béni l'Oasis. Est-ce que vous connaissez l'Oasis? Vous vous rappelez de Michael et Céline, de cette super œuvre qui gère depuis des années? Donc c'est un centre chrétien qui est ouvert, donc qui est ouvert à tous et qui permet donc à toutes les églises de France et d'ailleurs et même d'autres organismes, s'ils veulent faire des rencontres, de pouvoir faire des rencontres. Il y a du couchage et ils ont une période très difficile. Il y a eu le confinement qui est arrivé, il y a eu ce virus qui est arrivé et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et du coup, ben, quand il n'y a plus de rendez-vous, quand il n'y a plus ces rencontres, ces séminaires qui ont lieu, eh ben, c'est une perte nette, il n'y a plus d'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, ben, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont fait le choix de faire confiance à Dieu. Et on a pu, en tant qu'Église, les bénir. On a pu, en tant qu'Église, leur faire une offrande. Parce que vous avez donné, on a pu donner en retour. On va pouvoir donner aussi sur l'association Open Joy. Je sais qu'il y avait des besoins pour acheter un véhicule, je crois, si mes souvenirs sont bons. On a ce désir de pouvoir soutenir aussi des ministères. Est-ce que vous vous rappelez de Rémi Gomez? Il était venu ici, donc c'est un ancien de l'église de Lyon. Il était venu ici faire une conférence notamment sur l'évangélisation parmi les musulmans et puis une autre conférence sur l'apologétique. Et Rémi, il a reçu que le Seigneur l'appelait vraiment dans un ministère à plein temps. À plein temps, pour vraiment enseigner les églises, encourager les églises, les visiter pour leur apprendre comment évangéliser parmi les musulmans, comment évangéliser parmi les témoins de Jéhovah, comment évangéliser dans différentes sphères de la société. Et vraiment, il a un don, c'est un apologète, et il a en projet des livres qu'il veut écrire. Et pour ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de se former, ça demande de former. Et en tant qu'église, avec d'autres églises, on ne sera pas les seuls à pouvoir soutenir ce ministère-là. Et ça, c'est beau, et c'est bon, et c'est super, et on va être au bénéfice de ce ministère. Également, on donne de notre argent à notre famille d'église, New Ground, qui est beaucoup plus large. C'est super aussi parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites au travers de ça. On peut encourager des implantations d'églises. On peut encourager des églises qui traversent des difficultés. Il y a eu des difficultés en Afrique par rapport au Covid. Et grâce aux dons qui sont faits, ils sont en capacité de pouvoir donner et d'encourager ces églises. Et ça, c'est extraordinaire. L'Église a besoin de dons pour remplir la mission qui lui est donnée. L'Église doit grandir, l'Église doit toucher des gens pour qu'ils aient leur vie changée par Jésus-Christ. Et cela a un prix, cela coûte. Il y aura une facture à la fin et on doit apprendre à être clair avec ça. Ne pensez pas que l'argent que vous donnez sert juste à payer le chauffage, à payer le renouvellement du papier WC aux toilettes, du gel hydroalcoolique à l'entrée. Même si effectivement une part ira à ça, bien entendu. Mais notre part sert aussi à tous les projets que nous avons à cœur, à servir, à bénir jusque dans les nations. La communauté des croyants dont parle le Nouveau Testament est faite de personnes comme vous et moi qui mettaient en commun leur offrande et la donnaient aux pieds de l'apôtre. Ça, vous pouvez le lire dans Acte 4. Et alors, elle était distribuée. Donc, ce que nous donnons doit être donné en soumission responsable de l'Église où nous sommes. Et ils utiliseront cela devant Dieu, en rendant des comptes pour la mission à laquelle Dieu a appelé leur communauté. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des AG, on rend des comptes sur comment est utilisé l'argent. On explique. En faisant cela, en donnant avec une certaine discipline pour la vie de l'Église, semaine après semaine, pour ce que Dieu nous a appelés à faire, nous encourageons aussi notre communauté, nos responsables à être de plus en plus ambitieux pour le royaume de Dieu. Le plus nous donnons ici, le plus nous serons en mesure de faire des choses pour le royaume de Dieu. Le plus nous serons en mesure de participer à la formation de nouveaux leaders. Le plus nous serons en mesure d'aider les pauvres. Il y a des choses à faire. Le plus nous serons en mesure de bénir la mission, de bénir les nations, etc., etc. Cela demande de l'argent, cela demande de la discipline, cela demande du discernement. Faire partie de l'Église veut aussi dire aussi que nous la supportons financièrement. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner ailleurs, hein, sur d'autres œuvres, d'autres choses, bien entendu. Mais remplir la mission que Dieu a confiée à l'Église coûte de l'argent. Cela peut paraître pas spirituel, mais c'est biblique, profondément biblique. Et ce qui est super, c'est que Jésus le dit lui-même. Verset 14, Paul nous dit: De même aussi le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. C'est la cerise sur le gâteau. Jésus le dit lui-même, notre Maître. Matthieu 10, versets 9 et 10, Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus est en train d'envoyer les 12 et c'est ce qu'il leur dit. Ne prenez pas d'argent avec vous, ayez confiance que les personnes vers qui vous irez, qui seront au bénéfice de votre ministère, vous supporteront dans vos besoins. Le principe ici est que l'Église et les ministères doivent être supportés financièrement par les personnes qui en sont au bénéfice. Ce n'est pas seulement Paul qui a dit ceci, mais c'est aussi Jésus. C'est Jésus vers qui nous levons les mains, c'est Jésus que nous louons, que nous aimons, et il est très clair à ce sujet. Alors maintenant qu'on a vu les raisons pratiques qui explique pourquoi c'est bon et important de donner à l'Église, nous pouvons avoir quelques objections, quelques craintes. Et on va essayer d'en voir quelques-unes. Dois-je vraiment donner? L'Église grandit, ma part ne fait pas la différence. Croire que parce que l'Église grandit, ma part est avec ou sans ne fait pas la différence, c'est faux. Les gens qui sont dans l'Église ne sont pas tous en mesure de donner. Peut-être parce qu'ils sont nouveaux, convertis et n'ont pas encore l'habitude de donner, pas encore. Peut-être parce qu'ils sont étudiants. Certains étudiants n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Peut-être parce que ces personnes traversent une saison difficile financièrement. Et parfois, ils viennent à l'église avec plus de dettes que d'argent. Donc oui, ta part fait la différence. C'est mon argent. Je me prêche à moi-même, hein, les amis. Je me prêche à moi-même. La Bible nous dit que nous sommes ses intendants. Nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Je ne suis pas propriétaire de ma maison. Je ne suis pas propriétaire de ma famille, de mes enfants. Ils sont un don qui a été confié sous ma responsabilité. Et c'est une sacrée responsabilité. Si nous sommes croyants, c'est la manière dont nous devons vivre. Il peut reprendre ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Rien n'est à moi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est une erreur de croire que tout ce que nous avons dépend de nous et nous appartient. Tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons est à lui. C'est lui qui nous a donné et qui nous l'a confié. Et il nous appelle à être sages, à être de bons gestionnaires de ce qu'il nous a confié, à être sages dans la manière d'élever notre famille, d'élever nos enfants, à être sages dans la manière de gérer notre argent aussi, nos finances, notre travail. L'autre crainte, je ne peux pas me permettre de donner, je ne peux pas donner. Je donnerai quand j'aurai plus d'argent. J'ai une nouvelle pour vous. Vous ne pourrez probablement pas donner plus quand vous aurez plus. Et je sais de quoi je parle quand je dis cela. Si votre attitude est mauvaise au départ, elle le sera aussi quand vous aurez plus d'argent. Vous pouvez vous permettre de donner aujourd'hui. Il n'est pas question de montant, petit ou grand, mais de votre attitude de cœur. Si vous êtes capable de chanter aujourd'hui, si vous êtes capable de taper des mains, si vous êtes capable de vous mettre à genoux devant Dieu, vous pouvez donner aujourd'hui. Nous louons et nous croyons en un Dieu qui est le bon berger. Nous lui faisons confiance et il est fidèle. Ça a été partagé ce matin au travers de psaumes qui ont été lus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Etc., etc. Si c'est la vérité, alors nous pouvons lui faire confiance au travers de nos dons. Nous devons vivre dans ce lieu de confiance. Sinon, cela revient à dire, si j'ai un peu plus d'argent à la fin du mois, alors tu pourras en avoir un peu. Et tout au long de la Bible, on voit que ce n'est pas la bonne attitude. Quand vous donnez avec votre cœur, vous donnez le meilleur. Vous donnez les premiers fruits de votre récolte, nous dit l'Écriture. Je sais que tout appartient à Dieu. Juste pour me le rappeler, je décide de donner 10% par exemple, avec humilité. Vous regardez votre compte en banque au début du mois et vous dites, Seigneur, je veux te servir du mieux que je peux. Je veux apprendre à dépendre de toi. Je sais que ma vie est dans ta main et je veux t'honorer. Je veux te louer, dis-moi combien. Donner. Et je le ferai de tout mon cœur. Je donnerai le meilleur. Je donnerai le premier fruit. Et je vous encourage à le faire, à ne pas attendre la fin du mois, mais vraiment à le faire au début. Quand je le fais au début du mois, je peux témoigner que le Seigneur a toujours pourvu. Des fois, c'est un peu fou, parce que la vie est ce qu'elle est, et on a énormément de choses à prendre en charge. Vous avez un enfant qui part à l'université, vous en avez un deuxième qui part à l'université, et des fois, vous vous dites, mais comment ça va être possible? Peut-être que je vais pouvoir rogner un petit peu sur mon offrande. Non. Quand au début du mois, vous décidez de donner ce que le Seigneur vous met à cœur de donner, ce que vous avez résolu de donner, avec humilité et avec confiance, le Seigneur pourvoit. Et toutes les fois où j'ai attendu, ça s'est pas bien terminé. J'étais dans le stress, j'étais dans la crainte, parce que j'avais peur de manquer. Alors que le Seigneur était toujours là. Si je ne suis pas capable de faire cela, cela révèle des choses dans mon cœur. Cela doit devenir une habitude, une priorité. Dieu mérite le meilleur en réponse à son amour premier, en réponse à sa générosité. Rappelez-vous ce qu'il a fait avant toute chose, ce dont nous lui sommes redevables. Peut-être vous pensez que je suis en dehors des réalités, la vie est dure. Et c'est vrai, la vie est dure. On entend parler de crise qui est en train de venir, on entend parler de sociétés qui vont faire faillite. J'ai vu des vidéos de personnes qui ont tout perdu, qui ont travaillé toute leur vie et qui arrivent à 60 ans et qui ont tout perdu, tout ce qu'ils ont mis de côté. Et l'Église va avoir un rôle à jouer, je pense, dans les mois, dans les années qui viennent. C'est vrai? Tu veux que je sois irresponsable avec mon argent? Oui, c'est exactement ce que je veux, que tu sois irresponsable avec ton argent pour Jésus. Car qui est responsable si ce n'est Jésus? Il y a un passage dans la Bible qui parle d'une femme, Marie-Madeleine, et qui vient aux pieds de Jésus et qui déverse du parfum à ses pieds. Il nous est dit une année de salaire en parfum sur ses pieds. Toutes les personnes autour ont pensé qu'elle était irresponsable, tout le monde. Ils ont commencé à se plaindre, à se moquer. Quel gaspillage! Quelle femme stupide! Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, cette femme a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Et j'insiste que chaque fois que vous parlerez de moi, où que ce soit, où que vous alliez, vous mentionnez cette histoire. Marc 14, verset 9. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est la seule fois où Jésus va dire cela, où il va mentionner cette histoire. Spécifiquement celle-là. Et c'est l'histoire d'une femme folle pour Jésus qui a déversé une année de salaire de parfum sur ses pieds. Qu'est-ce que ça représente une année de salaire pour vous? Pensez-y un instant. Est-ce que vous seriez prêt à investir cela sur les pieds de Jésus? Parce que si vous le faites, le monde croira que vous êtes complètement fou. Mais Jésus dira, tu as fait ce qu'il fallait. Et non seulement ça, mais je veux que le monde voie que tu as fait ce qu'il fallait. Jésus, il aurait chanté ta louange, il aurait pris un mégaphone et il aurait dit, nous en avons un, nous en avons un, il a fait ce qu'il fallait. Jésus veut que nous soyons irresponsables avec notre argent. Soyons fous avec ce qu'il nous a donné. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, cela vous sera donné en retour. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que nous en avons, que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous verrez, ça va aller. Ça va aller. Ou peut-être vous pourriez penser à un autre argument que l'Assemblée chrétienne de Marguerite a juste besoin de survivre. Peut-être vous dites que nous pourrions réduire un peu le train de vie de l'Église, laisser un projet ou deux de côté, et nous verrons que l'argent sera là, que ça sera suffisant. Vous êtes trop ambitieux. En fait, nous avons des projets encore plus ambitieux que ce que vous pensez. Nous servons à un sauveur qui veut répandre son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On a plein de choses qu'on aimerait faire. Je suis sûr qu'au niveau de ce que démarrent Eric et Marie-Laure, on va avoir envie de faire des choses. Ce qu'on a démarré, contraint et forcé par le confinement, ces visioconférences, moi j'ai envie que ça dure. Et je me dis, je me rends compte, on a une personne qui s'est convertie, qui était à des centaines de kilomètres, qui s'est connectée, qui sont convertis, on touche. Et je me dis, mais peut-être qu'il y a des gens qu'on veut inviter à l'église et qui n'osent pas venir, et peut-être que ça pourrait être un moyen pour eux, pour elles, de peut-être dans un premier temps de se connecter de chez elles. Écoute, connecte-toi et vois. C'est ce qui s'est passé avec cette personne. Elle s'est connectée, elle a vu. Elle a entendu. Elle a reçu. Et elle a voulu en savoir plus. Elle est venue. Elle a donné son cœur à Jésus et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et je pense que on est dans un monde, dans une culture où effectivement on n'est pas présent suffisamment sur les réseaux sociaux, sur le multimédia. Et moi j'aurais envie de développer un, je ne sais pas, une fois que le confinement sera terminé, qu'on pourra à nouveau se rassembler, de continuer à pouvoir diffuser ces cultes en direct. Mais de manière plus professionnelle, avec des caméras, peut-être 2-3 caméras, j'en sais rien. Pas pour faire le show, mais pour toucher les gens, pour que les gens soient touchés, pour que les gens aient des vies transformées. Il y a ce projet en centre-ville, ce merveilleux projet en centre-ville qui a démarré, où on a envie de continuer, d'investir, de faire plus de choses encore. Nous n'avons pas besoin de survivre, nous devons grandir, nous devons être beaucoup plus ambitieux. Pour conclure, j'aimerais vous dire, chrétien ou pas encore, le fait est que dans notre vie, nous allons louer, vénérer quelque chose. Et nous le faisons déjà. Nous avons été créés pour louer. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Nous avons été créés pour louer. Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et mammon, c'est-à-dire l'argent. Et beaucoup dans le monde, beaucoup d'entre nous choisissent l'argent. Nous le plaçons très haut comme quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Et nous le protégeons, nous nous y attachons. Et parfois, je dois avouer que je suis dans cette attitude de cœur, honnêtement. Ça m'arrive. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence à ce sujet. Comprendre qu'il est Dieu et pas nous. Comprendre que c'est son argent et qu'il prend soin de nous. Si vous servez l'argent de manière à engranger pour vous-même, pour votre vie, vous vous rendrez compte que l'argent est un Dieu terrible. Il ne s'occupera pas de vous, donnez-lui votre cœur et il vous détruira. Il y a un seul Dieu qui a révélé son amour pour nous au travers de Jésus-Christ. On l'a dit au début. Et qui vous dit, cherchez mon royaume premièrement. Cherchez mon royaume et ma justice premièrement. Et toutes choses vous seront données en plus. Tout ira bien. Je peux m'occuper de tout le reste. Je peux m'occuper de tout le reste. Amen. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as tout donné gratuitement, Seigneur. Nous te devons tout, Seigneur Jésus. C'est toi qui as racheté nos vies. C'est toi qui as envoyé ton Fils Jésus. Il est mort de la mort que nous méritions, Seigneur. Et tu l'as fait parce que tu voulais nous racheter. Tu nous as rachetés au prix de la vie de ton Fils, de ton propre Fils. Et nous te sommes si reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et nous voulons le recevoir, Seigneur. Comprendre que ce que tu nous as donné, tu nous l'as donné gratuitement, que nous n'avons rien à faire pour mériter cela, Seigneur. Vraiment, je te prie pour que ça pénètre nos cœurs, que ça pénètre notre intelligence, nos pensées, que ça soit une conviction pour chacun d'entre nous dans l'Église, pour chacun et chacune d'entre nous. Nous n'avons rien à faire pour mériter ton amour. Nous n'avons rien à faire pour mériter ton amour. Saint-Esprit, vraiment, je te prie de l'attester dans nos cœurs, Seigneur, que ça puisse être une réalité pour tous, Seigneur Jésus. Et alors que nous allons apprendre à réaliser cela, à apprendre à réaliser combien tu es merveilleux pour nous, nous allons vouloir aussi être généreux envers ceux qui sont autour de nous. Merci de faire grandir cette générosité, Seigneur, dans nos vies. Merci de faire grandir cette confiance que tu tiens nos vies dans ta main et qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr, il n'y a pas d'endroit où on ne serait plus en sécurité que dans tes mains, Seigneur. Merci de faire grandir notre foi, Seigneur, notre vision en tant qu'Église, Seigneur Jésus. Nous voulons être une Église qui est ambitieuse, une Église qui a envie de faire des choses nouvelles, qui a envie de faire des choses pour toucher les gens qui en ont besoin. Merci pour cette initiative qui démarre auprès des migrants, Seigneur. Vraiment, je te prie pour que ce ne soit pas quelque chose qui fasse pchit, que ce soit un soufflet qui monte et puis qui retombe, mais que vraiment il y ait quelque chose de profond qui démarre dans l'Église envers ceux qui ont besoin, qui sont dans la pauvreté et qui ont besoin de nous. Vraiment, je te prie de susciter dans chacun de nous, dans chacun de nos cœurs, des idées, peut-être des idées folles, Seigneur Jésus. Nous voulons être ambitieux et nous voulons honorer, Seigneur, honorer cela par notre offrande, Seigneur, parce que nous te donnons, Seigneur. Nous voulons faire le choix, Seigneur, de te donner le fruit de notre travail, les premiers fruits, Seigneur. Au début du mois, nous poser devant toi, nous poser la question, qu'est-ce que tu mets à cœur de donner, Seigneur ? Et nous voulons à cœur de donner, et nous voulons le faire avec foi, avec espérance, avec confiance, parce que nous savons que tu tiens nos vies dans ta main. Et quoi qu'il arrive, nous savons que tu tiens nos vies dans ta main. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Merci pour la générosité qu'il y a dans l'Église. Merci pour l'engagement qu'il y a dans l'Église, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Amen.